Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Goma et ses environs pollués par des engins de guerre abandonnés lors des récents combats entre l'armée et le M23. On compte une vingtaine de victimes de ces engins depuis début 2025, dont 6 morts. La synergie de lutte anti-mine SILAM et d'autres ONG sensibilisent sur les risques des engins explosifs. Lutte contre les embouteillages dans la ville de Matadi. Le gouvernement provincial sensibilise depuis hier les transporteurs et les entreprises des véhicules poids lourds dans ce sens. C'est pour les inviter au respect des mesures prises par l'autorité urbaine. Vous entendrez à ce sujet le maire de la ville de Matadi. Et puis, la peste bubonique et pulmonaire fait rage dans la zone de santé de Réti en Ituri depuis avril dernier. On compte déjà 24 cas positifs et un décès. Information livrée cette semaine par le médecin coordonnateur du centre de surveillance et de lutte contre la peste en RDC, Dr Gustave Lossa, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. La ville de Goma et ses environs sont pollués par des engins de guerre abandonnés lors des récents combats entre les FARDC et le M23 en plein cœur de la ville. Ces engins font des victimes parmi les habitants. SILAM parle d'une vingtaine de victimes déjà recensées depuis le début de l'année, dont 6 morts et 24 zones contenant des engins explosifs. C'est dans ce cadre, que la synergie de lutte anti-mine SILAM et d'autres ONG de déminage viennent de lancer des activités de sensibilisation et d'éducation au risque des engins explosifs. Ces activités consistent à sensibiliser les communautés au danger et les protéger contre les accidents liés à ces engins non explosifs. Marion Gavo, coordonnateur national de SILAM, explique le bien fondé de cette sensibilisation.
Déjà, des accidents sont signalés ça et là dans les territoires de Nyiragongo, de Masisi, de Rutshuru, dans la ville de Goma récemment aussi. La population confond les munitions avec les objets que nous utilisons couramment. Une roquette peut ressembler à un pilon. Une cartouche ressemble à un crayon. Une grenade à main ressemble à un ananas. Des mortiers qui peuvent ressembler aux poissons et la population fait des confusions avec ça. C'est pourquoi la SILAM, avec les autres organisations DCA, AfriLAM, comme SIOPADI, ont demandé des permissions pour commencer à sensibiliser les populations. Et peut-être l'autorisation pour le déminage pourra venir après. Donc, nous disons à la population, quand ils voient des engins qui ressemblent aux effets militaires, de ne pas les toucher, de ne pas y jeter quelque chose que ce soit, d'informer les ONG en charge du déminage pour que nous puissions essayer d'écarter les dangers, parce que quand il y a explosion, on devient handicapé, il y a la mort.
Nord Kivu toujours. Les habitants de Pinga, dans le territoire de Walikale, contraints d'effectuer des dizaines de kilomètres de marche à pied à la recherche d'une connexion de téléphonie mobile. Cela fait 2 semaines en effet que la population de cette région est déconnectée du monde en raison des coupures des connexions de réseau de téléphonie mobile. La société de télécommunication Vodacom, l'unique dans cette région, évoque l'accès difficile pour ravitailler ses antennes en carburant. La société civile locale qui alerte sur ce calvaire plaide pour un rétablissement urgent de la connexion, surtout en cette période de crise où la population veut être informée sur ce qui se passe au pays. Le vice-président de la société civile de Pinga a dû effectuer 20 km à pied à la recherche d'une connexion. Joint par Radio Kapi, Bayomba Safari explique la situation.
Pour l'instant, la population de Pinga vit un calvaire trop grave. Vodacom, les seules raisons qui restaient en train de servir cette pauvre population frappée par la situation d'insécurité et d'incertitude. Il faut savoir qu'à partir de cette connexion-là, les enseignants, il y a aussi d'autres opérateurs économiques qui doivent faire leurs opérations à partir de la connexion via M-Pesa et tout consort. Donc, vous voyez déjà que la population souffre lamentablement. Donc, nous demandons au patron de Vodacom de bien vouloir faire de tout leur mieux de rétablir la connexion, en fait de désenclaver cette population qui n'a aucune information sur l'actualité. Alors, nous supplions et nous demandons les autorités compétentes de bien vouloir s'impliquer pour que cette cause soit résolue.
Votre radio n'a pas pu joindre les responsables de Vodacom jusqu'ici. Nous sommes encore au Nord Kivu. La MONUSCO Beni, à travers sa section d'appui à l'administration pénitentiaire, en partenariat avec l'ONG locale Marchons Ensemble et sûrement dans l'assistance scolaire et humanitaire, a lancé vendredi un projet d'éducation au sein de l'établissement de garde et d'éducation de l'État à Beni. Ce projet, appuyé par la MONUSCO en fourniture et matériel scolaire, vise à offrir une seconde chance aux enfants placés dans cette structure afin qu'à leur sortie, ils puissent contribuer positivement à la vie de leur communauté. Guylaine Kassassia, reportage.
Ce projet, qui s'inscrit dans la durée, est d'une grande importance car la place de l'enfant est avant tout en famille et à l'école, explique Sefou Kambale Kialire, directeur de l'EGE Beni.
Vous savez que d'abord, la place de l'enfant, ce n'est pas à l'EGE, mais c'est aussi de la famille ou soit à l'école. Et vous voyez que les enfants qui sont ici placés à l'EGE, ils ont droit à tout. Pour dire qu'avec le projet de la MONUSCO, c'est un projet vraiment que j'encourage beaucoup parce qu'avoir l'intérêt de l'enfant, l'enfant a aussi le droit aux études.
Grâce à Paluku Kassai Claude, chargé des opérations et programmes au sein de l'ONU, ONG locale, Marchons Ensemble et sûrement dans l'assistance scolaire et humanitaire. MESAS et encadreur principal revient sur les cours clés de ce programme.
Nous mettons l'accent grave sur l'éducation civique et morale, sur l'éducation à la paix et citoyenneté, sur l'éducation du civisme et sur l'éducation à la vie, de telle sorte que la femme sorte d'alléger en ayant déjà un comportement changé. Ces cours sont agrémentés par d'autres cours des cultures générales et à part ça, nous mettons aussi un accent sur l'enseignement des langues, le français et l'anglais.
Actuellement, l'établissement des gardes d'éducation de l'État EG Beni héberge 42 enfants, dont deux filles. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, le club Zaïda Catalane pour la paix et la sécurité plaide pour le soutien aux initiatives locales de subsistance afin de faire face aux effets du changement climatique sur la paix et la sécurité dans l'est du pays. La représentante de cette organisation a lancé cet appel lors de la présentation des résultats d'une étude par l'ambassade de Suède en RDC sur le climat, la paix et la sécurité dans cette région. Cette recherche menée par l'Institut international des recherches sur la paix basée à Stockholm, met l'accent sur les effets du changement climatique et son impact sur les tensions sécuritaires et communautaires au nord et au sud Kivu. Pour Judith Maroy, ayant participé à cette étude, les résultats démontrent à quel point la mauvaise gestion de l'environnement dans certaines zones de Calais et au sud Kivu a contribué aux inondations meurtrières de Nyamukubi il y a 2 ans. Judith Maroy revient sur l'importance de cette étude pour la RDC. Elle est au micro de Ronéline Tibonera.
Il y a 2 ans, une catastrophe est arrivée. On a déplacé ces gens de Bouchouchou dans une concession d'une personne. Et 2 ans plus tard, on ne leur a pas donné où aller. D'abord, les concessionnaires commençaient à réclamer sa place. Et là où ils étaient, les enfants des déplacés dus aux catastrophes de Bouchouchou, n'allant plus à l'école, leurs parents n'ayant plus des champs pour cultiver, ces enfants sont allés voler dans les maisons. Un enfant a volé, c'est pas une poule, des chèvres, et ça a été source de conflits. Des gens ont failli se tuer à la machette. Et cette recherche a démontré comment les questions de changement climatique sont intimement liées à la paix et la sécurité, d'où l'intervention des uns des autres, donc qui travaillent dans les domaines de peace building, de toujours insérer ou parler de la question du climat, en ce sens que c'est intimement lié et ça peut soit aggraver la situation ou le favoriser.
Je vous rappelle que Zaïda Catalane est la chercheuse suédoise qui a été tuée pendant la crise Kamuina Sapu dans le Kasaï. Rendons-nous au Congo central. Je vous l'ai dit dans les titres, début hier vendredi de la sensibilisation sur l'applicabilité de toutes les dispositions arrêtées pour mettre fin aux embouteillages dans cette ville. Cette sensibilisation menée à l'intention des transporteurs et des entreprises des véhicules de poids lourds est patronnée par le gouvernement provincial. Elle est menée à travers les artères de Matadi par la mairie de la ville, la police de circulation routière et la Commission nationale de prévention routière, CNPR. On écoute à ce sujet de Dominique Nkodiambete, maire de la ville de Matadi, y donne ici la quintessence de cette sensibilisation, propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Mais nous remarquons que la plupart des propriétés des véhicules poids lourds n'ont pas de garage. dans la ville, ici, il y a beaucoup de véhicules abandonnés qui traînent le long de la voie principale. Donc, tous ces véhicules abandonnés et les épaves ne facilitent pas la fluidité de la circulation entre véhicules. Nous, au niveau de la ville, nous avions déjà pris des dispositions, mais maintenant nous sommes là renforcés par l'exécutif provincial pour voir comment désengorger la ville de Matadi. Nous avons également retenu un site où tous les véhicules abandonnés seront gardés. Il y a un véhicule autogris du gouvernement provincial qui existe déjà, qui va faire ce travail. Et on a également trouvé des véhicules porte-chars qui vont commencer à transporter les véhicules jusqu'au site retenu comme fourrière. Cette fois-ci, ce sont des mesures qui vont être appliquées sans faille. Et les chauffeurs qui stationnent là doivent oublier ces habitudes-là. Parce que maintenant, nous trouvons votre véhicule. Si la voie principale, nous venons, nous remorquons, nous amenons à la fourrière. Les véhicules abandonnés, nous amenons également à la fourrière. Un véhicule que nous avons amené là-bas pour les récupérer, des amendes, des fortes amendes en tout cas. Et pour les épaves, nous allons donner un délai. Dépasser ce délai, votre épave continue à rester au niveau de la fourrière. Nous la détruisons et nous la vendons comme un mitraille.
Autre nouvelle, la délégation syndicale de la Régie des voies aériennes RVA Kisangani sollicite l'implication du vice-premier ministre et ministre des Transports pour la résolution d'un conflit qui oppose la RVA à l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat Kisangani. En effet, ces deux services opèrent à l'aéroport international de Bangboka dans un climat de tension permanente. Des scènes de violence se sont déjà produites, faisant des victimes. C'est en vue de favoriser un climat de paix dans les installations aéroportuaire que la délégation syndicale de la RVA Kisangani sollicite l'intervention du ministre des tutelles Jean-Pierre Bemba Gombo. Un extrait de leur déclaration est lu ici par le délégué syndical principal de la RVA Kisangani, Mulongo Kazadi. Propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Ayant vécu un climat très tendu entre la RVA et la Metelsat, et vécu des scènes de violence de la part des agents de la Metelsat Kisangani, soucieux de préserver la paix sociale à l'aéroport de Kisangani-Bangoka, nous déclarons ce qui suit. 1. Demandons au vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, de convoquer la commission qu'il a mise en place pour résoudre ce conflit. 2. Nous nous opposons à toute initiative tendant à brader les redevances et taxes RVA ainsi que son patrimoine immobilier à Kisangani. 3. Demandons que soit délocalisé le bureau du Metelsat qui doit quitter le bâtiment administratif de la RVA. 4. Soutenons les initiatives de la direction générale de la RVA pour endiguer cette crise causée par la Metelsat Kisangani. 5. Soutenons la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui prône la paix sociale.
L'actualité, c'est aussi cette nouvelle société d'exploration des gisements miniers qui s'installe à Luozi au Congo central. Il s'agit de Kerit Resources. Elle vient de signer un protocole d'accord avec le Service géologique national du Congo. À travers cet accord, des Congolais investissent dans leur propre pays, contribuant ainsi au développement territorial dans un partenariat permettant la création de nombreux emplois et favorisant une réelle valorisation des ressources locales. Des précisions avec Jeff Ngoy.
Ce partenariat vise à promouvoir l'entrepreneuriat local et à faire émerger de véritables capitaines d'industrie congolais, selon le directeur général de SGNC, Raoul Wazenga.
C'est pour nous une grande joie de pouvoir signer ce protocole d'accord avec une société de droit congolais, Kerit Resources. Cet accord représente pour le service géologique un accompagnement avec un partenaire local, un partenaire national, qui va devoir aider sur le plan technique et financier à ce que nous puissions intensifier la recherche géologique sur deux zones de recherche géologique qui se situent dans le territoire de Luozi, dans le Congo central.
Le directeur général de Kerit Resources, Félix Amouna, souligne l'importance de cet investissement à capitaux 100% congolais.
Donc nous nous sommes approchés de la direction générale pour pouvoir mettre nos ressources ensemble pour exploiter et explorer. Mais ce qui est important et ce qu'il faut souligner, c'est que nous n'y allons pas en tant que simple faire-valoir. C'est que nous investissons dans l'exploration, donc nous sommes une société de droit congolais.
Ce partenariat stimule donc la création d'emplois et le renforcement de l'économie locale.
La coordination provinciale du PDL 145 territoires dans la province du Tanganyika a publié hier une note d'information technique détaillée de ce programme sur un total de 91 infrastructures prévues dans cette province. 27 sont finalisées. La coordination souligne que malgré les contraintes et défis majeurs, les progrès sont tangibles et le rythme de livraison des infrastructures s'accélère progressivement. Paulin Munanga nous en dit plus.
Cette note d'information technique sur les suivis de la mise en œuvre des activités du PDL 145 territoire précise que dans la province du Tanganyika, il est prévu la construction de 52 écoles primaires, 33 centres de santé et 6 bâtiments administratifs. Concernant l'avancement des travaux, 27 infrastructures sur 77 en cours sont finalisées dans la province du Tanganyika. Parmi les contraintes et défis majeurs, la note d'information cite notamment les contraintes logistiques liées à l'inaccessibilité des plusieurs sites en raison du mauvais état des routes ou d'inondations, une forte pluviométrie et les vents du lac rendant dans la plupart des cas la navigation impossible. Il y a les contraintes techniques et humaines comme l'insuffisance de la main d'œuvre qualifiée, en l'occurrence les plombiers, les carreleurs, les menuisiers et les ajusteurs, souligne la note d'information technique du PDL 145 territoire. La note précise que les prochaines étapes sont entre autres le démarrage des 14 infrastructures restantes, la réception technique de 15 infrastructures et la poursuite des travaux dans tous les territoires. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Nigeria a remboursé 3,4 milliards de dollars issus du Fonds monétaire international FMI. C'est dans le cadre d'un instrument de financement d'urgence pour lutter contre la COVID-19, affirme le représentant de FMI dans le pays dans un communiqué. En effet, le Nigeria s'était tourné vers le FMI en avril 2020 alors que son économie battait de l'aile en raison de la chute des cours de l'or noir dans un contexte dominé par le coronavirus. 5 ans après, Abuja vient d'effacer cette ardoise. Mais le plus grand producteur de pétrole au sud du Sahara doit encore verser à l'institution de Bretton Woods annuellement 30 millions de dollars relatifs aux frais des droits de tirage spéciaux.
L'invité.
Il nous vient de l'Ituri. 24 cas positifs et un décès, c'est le récent bilan de l'épidémie de la peste bubonique et pulmonaire qui sévit depuis avril dernier dans la zone de santé de Réti, territoire de Djougou. Ces chiffres ont été communiqués le lundi 5 mai par le médecin coordonnateur du Centre de surveillance et de lutte contre la peste en RDC. Dr Gustave Lossa indique que les efforts des partenaires dont l'ONG internationale Malteser ont permis de limiter la propagation de cette maladie. Ils sont entretien à ce sujet avec Jean-Claude Loki.
Docteur Gustave Lossa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
À ce stade, quel état de lieu dressez-vous de l'épidémie de la peste dans la zone de santé de Réti? Selon nos informations, 22 personnes sont déjà atteintes de cette maladie dans la zone.
Oui, en effet, ce qu'il faut retenir, c'est que la zone de santé de Réti, c'est une zone endémique de peste. D'ailleurs, même l'année passée, en 2024, ils en ont eu plus que ça, mais cette année-ci, ça a commencé quand même avec un effectif qui est réduit. C'est pour vous dire que les chiffres que vous avancez là, ça c'est le nombre que nous avions eu au premier trimestre. Il y avait eu 22 cas et pas de décès. Aujourd'hui, par exemple, comme nous venons de la Réunion, nous avons 24 cas et on a eu un premier décès à la semaine 16. Ce décès-là, c'était dû à une forme septicémique.
C'est-à-dire
le germe s'étend sur l'ensemble du corps, ça envahit l'ensemble du corps et l'individu meurt subitement. Ce sont des formes graves, comme la forme pulmonaire aussi. Mais s'il n'y a pas prise en charge, l'individu meurt rapidement dans les 24 à 48 heures.
Et qu'est-ce qui explique chaque fois la résurgence de cette maladie dans cette partie de la province de l'Ituri, précisément le territoire de Djougou? Certaines personnes lisent cette situation avec les retours de la saison pluvieuse. Est-ce que c'est votre constat aussi?
La saisonnalité, c'est ce qu'on constate, mais c'était une épidémie qui a commencé l'année 2024 et qui se prolonge parce que c'est aussi les mêmes aires de santé qui continuent à notifier les cas.
qu'est-ce qui est fait pour la prise en charge de malades? Avez-vous assez de stocks de médicaments, par exemple, pour soigner toutes ces personnes? Qui vous appuie dans cette lutte pour stopper ou limiter la propagation de la maladie?
Pour ce qui est de la prise en charge, en fait, sincèrement, nous devons remercier l'ONG Mater International. Parce que c'est cette ONG-là qui nous dote en médicaments de prise en charge depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'il y a trois formes. La forme bubonique, la forme pulmonaire et septicémique. Mais tous les malades qui ont eu la forme bubonique, on les a récupérés en totalité à cause de cette prise en charge précoce. Quand nous voyons même là, en 2024, ils ont eu plus de décès. La zone de santé avait notifié, je crois, 10 décès. Mais les 8 là étaient des décès communautaires. Ils sont décédés dans la communauté avant de venir au niveau des structures. Et les deux autres là sont décédés à peine arrivés à la structure. En moins de 24 heures, ils sont décédés. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la communauté et de la sensibilisation de la communauté pour que dès que...
Justement, parce que vous parlez de la communauté. Comment vous associez les membres de la communauté dans cette lutte pour vous appuyer dans la sensibilisation, par exemple? Quel message vous leur passez, sachant que la zone est aussi très fréquentée par la population pour diverses raisons?
Oui, c'est vrai. Il y a toute une série d'actions qu'il faut mener au niveau de la communauté. D'abord, à commencer par l'assainissement, bien sûr, parce qu'il faut que les milieux soient sains pour éloigner le plus possible les rats. Hein, les rats qui sont les réservoirs. Et puis, ce sont plus les puces qui transmettent la maladie pour le moment. Et c'est parce que quand la puce transmet la maladie, c'est la forme bubonique que vous présentez. Et il y a des signes qui s'annoncent. Et quand vous arrivez précocement, dès qu'il y a ces signes-là, à ce moment-là, on vous prend en charge et vous êtes guéri. Et vous êtes guéri en moins d'une semaine. Même, disons, tout au plus 10 jours. Parce que la peste n'est pas une maladie chronique avec laquelle vous traînez pendant des années durant, non. Donc c'est une semaine, 10 jours, et puis c'est fini.
Est-ce qu'il se permet aussi de palper ou de toucher le corps des malades ou des cadavres? Ça aussi, n'est-ce pas, c'est danger,
hein? Oui, c'était danger. C'était danger pour toucher le corps du malade parce que... Quand vous touchez le corps du malade, surtout quand ce sont des décès, là vous avez beaucoup de risques de vous contaminer directement.
Docteur Lossa, je vous dis merci.
C'est à moi de vous remercier, journaliste, parce que vous me donnez l'opportunité d'informer le public.
Voilà, c'était là notre invité qui s'entretenait avec Jean-Claude Lokidile. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta. Alain Rongouchind a supervisé ce journal et à la mise en onde Alain Goy. Merci d'avoir été des nôtres.